Invitation. Alors, ma parole est un peu, je pense qu'elle n'atteint pas l'imposture, en tout cas, elle est franchement dans l'ignorance. En tant que pseudo-détenteur de savoir, on a toujours ce risque de dire des choses qu'on ne connaît pas. Pour ma part, je vais présenter un travail fait à deux, mais qui doit principalement au travail de Madame Malika Belgacem, dont la thèse est co-dirigée d'abord par le professeur Abdesalem Benzaoui, à G3 et directeur de l'école de journalisme, et moi-même en co-direction pour les aspects communication et religion, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'islam, mais je m'intéresse du tout, du tout, mais d'où le risque de l'imposture et la réalité de l'ignorance. Mais je m'intéresse à cette dimension communicationnelle du religieux. C'est du coup un très beau lieu pour moi, en dehors du thème de la journée, que d'intervenir ici, puisque Meaux est une ville historique du lien entre communication et religion, au moins depuis Bossuet. Quand j'ai échangé à propos sur Facebook, parce qu'il n'y a pas que les djihadistes ou pseudo-djihadistes qui y sont, avec un collègue en annonçant cette journée, un collègue du département carrière sociale de mon IUT m'a. Excusez-moi, je vais remonter au début. M'a demandé s'il était vraiment pertinent de décrypter la propagande djihadiste en IUT et s'il ne vaudrait pas mieux s'intéresser à la propagande capitaliste. Il ne voyait pas le problème, bon, c'est typique de carrière sociale, mais on verra qu'il y a un lien entre les deux, peut-être tout à l'heure. Alors, je me réfère moi-même beaucoup à la question de la propagande pour enseigner en communication, ce que je fais dans mon département, comme quelque chose de une sorte d'ultime possible de la communication. J'avoue pour ma part m'appuyer sur les massacres au Rwanda en 93-94 et le rôle de Radio Mille Collines, notamment, qui est assez exemplaire aussi dans une action communicationnelle. La difficulté que pose la propagande de Daesh, dont je ne suis pas spécialiste, mais dont Madame Malika Lamoudi-Belgacem l'est, c'est la conjonction de l'horreur et du religieux. Elle croise deux mondes, un monde visuel marqué par le film d'action américain, mais aussi celui du film gore et du snuff movie, ces films où on filmait il y a longtemps déjà des meurtres en réalité, et un monde théologique et mythique marqué par l'univers de la croisade religieuse. Donc on va s'intéresser ici plutôt à ce second aspect. Alors ce qui m'intéressait dans ce thème, c'est effectivement la question discutée et ambiguë du religieux. Je trouve intéressante l'approche du journaliste du Monde, Jean Birnbaum, dans Un silence religieux, un ouvrage récent, dans lequel il rappelle, contre la gauche, estime-t-il, ou une partie de la gauche, l'importance de la dynamique religieuse dans l'action humaine. Et c'est vrai que cette dimension religieuse est difficile à entendre, notamment quand on parle avec Olivier Roy, de l'islamisation de la radicalité, et qu'on vise à protéger des personnes qui sont peut-être musulmanes en France, en disant que ceci n'est pas musulman. Dans une approche, moi j'échange avec des collègues en sociologie, anthropologie des religions, ça me paraît quand même difficile de dénier à des personnes qui s'affirment musulmanes la religion qu'ils invoquent, quand bien même ce ne serait pas la bonne voie, la bonne forme ou le mode de religion qu'on préfère. On peut dire qu'on préfère d'autres musulmans ou comme musulmans qu'on fonctionnerait autrement, c'est la position de Madame Belgacem, je pense, par exemple. Mais de là à dire que ce n'est pas du tout musulman, bien qu'il l'invoque pour protéger les musulmans, c'est un petit peu compliqué. Et puis ça enlève la position affirmative qu'il y a, notamment en islam, dans une position religieuse. Voilà ma position de départ et mon intérêt pour la question. Donc il me semble qu'on doit prendre au sérieux l'énonciation du locuteur sur cette question, sans confondre avec d'autres énonciations tout à fait différentes. Et on a le droit, encore une fois, de préférer d'autres personnes. Juste avant de commencer, la présentation sera en deux temps. Un point rapide sur une religion en effet, mais quelle doctrine? Donc ça va être compliqué pour moi parce que je parle d'une connaissance que je n'ai pas, donc j'ai un texte que je vais essayer de résumer. Voilà, puis la discussion permettra sans doute d'enrichir. Et ensuite, on regardera des images pour évoquer deux vidéos dans cette interprétation. Ce que je voudrais dire, donner deux petits préalables un petit peu émotifs, j'en suis désolé. Le premier, c'est que c'est quand même, moi je travaille sur les catholiques d'habitude, donc ils sont en général beaucoup plus gentils, sauf peut-être à l'égard des homosexuels, mais c'est d'une part de travailler sur des gens qui veulent vous tuer ou ont tué des collègues proches, c'est quand même assez particulier dans la dynamique de recherche et d'écriture, et d'autre part, j'avais déjà vu ça en travaillant sur des rapports de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est de travailler sur des choses qui suscitent l'effroi. C'est-à-dire, c'est quand même, c'est banal, mais je voudrais juste le dire, c'est très particulier, on le sait, mais de travailler sur ces vidéos. Moi, une vidéo avec une décapitation, je supporte. Avec 21, j'ai plus de mal. Voilà. Donc, il y a quelque chose dans le rapport, Jean-François Lahaye de Paris 8 avait souligné ça, mais il peut y avoir une lecture émotive du chercheur. On n'écarte pas, je ne le ferai pas là, mais on peut ne pas écarter ce qu'on ressent face à ces matériaux. Je me souviens de rapports de la protection judiciaire de la jeunesse qui évoquait le viol d'un bébé par un adolescent. Le chercheur ne doit pas forcément écarter cette dimension-là. Après, je ne sais pas comment on la traite, mais il se passe quelque chose. Et s'il ne se passe rien, on pourrait être dans une pathologie ou une habitude excessive aussi. Hein. Excusez-moi, j'ai du mal avec le haut et le bas. Vous l'avez peut-être compris dans cette présentation. Donc on a, semble-t-il, deux courants de la pensée islamique et arabe qui considèrent l'islam comme unique fondement à toute civilisation, comme base constituante à la connaissance et comme première référence dans l'instauration d'un système politique et social de façon différente, mouvement réformiste, islamiste et fondamentaliste, si on garde ce terme, avec deux tendances modérées ou extrémistes, radicales, djihadistes. Pour comprendre ce mouvement radical qu'est la pensée fondamentaliste islamiste extrémiste, qui a théorisé la pensée djihadiste, il est, selon Madame Lamoudi, nécessaire de revenir sur quatre concepts qui constituent la référence religieuse et idéologique qui guide et légitime les actes terroristes. L'universalité de l'islam, Jahiliya el-Halam, l'état d'ignorance de l'islam par le monde, au sens religieux, le djihad et la paix. Le concept de l'universalité de l'islam est considéré comme la vérité absolue qu'il faut atteindre et concrétiser par la paix. À l'opposé, le concept de Jahiliya el-Halam, l'état d'ignorance de l'islam par le monde, est considéré comme une vérité partielle, relative, qu'il faut anéantir par le djihad. De fait, ces deux situations, l'universalité de l'islam et l'état de l'ignorance, ne peuvent cohabiter, et le djihad et la paix sont deux moyens et non une fin en soi. Alors, quelles sont ces références religieuses de la pensée fondamentaliste extrémiste? Je vais essayer d'aller un petit peu vite sur ça. La question de l'universalité de l'islam donc, signifie que la société islamique est une société non racialiste, non nationaliste, qui ne reconnaît aucune frontière entre les pays. Daesh a fait tomber la frontière Syrie-Irak. Le message de la société islamique est un message de justice, d'équité, de vénération d'Allah, tel que prêché par le prophète Mohammed. Le message de la société islamique est la justice entre les hommes et le rejet des théories économiques, des systèmes politiques basés sur le nationalisme, la nationalité, la démocratie ou le socialisme. L'universalité de l'islam, telle que vue, semble-t-il, par les théoriciens de ce courant, est le préambule à la domination de la pensée islamique universelle sur la pensée nationaliste. L'islam est universel car c'est le seul système qui satisfasse les besoins innés de l'homme et il a la capacité à organiser les différents aspects de sa vie. Ahmed el-Mawsalili, 2005. L'universalité de l'islam, c'est aussi le transfert du pouvoir des, je cite, « mains abusives et outrancières » aux mains, je cite, « innocentes et strictes ». Abi el-Hassan el-Husseini el-Nadwi, 1987. Ce transfert ne peut s'opérer que par le biais du djihad. L'universalité de l'islam est fondée sur le principe de la gouvernance qui reconnaît le pouvoir absolu à Allah, seul législateur. Les penseurs de ce courant estiment que l'islam est un système global pour combattre Jahiliyat el-Halam, l'état d'ignorance de l'islam par le monde, les mécréants et les agnostiques. Du point de vue doctrinal et politique, le monde est divisé en deux parties, le parti d'Allah et le parti du diable, Saïd Cobb, 1993. Cette dualité apparaît dans les messages de propagande de Daesh. L'état d'ignorance de l'islam dans et par le monde, Jahiliyat al-Halam, les fondamentalistes et extrémistes considèrent donc les sociétés européennes comme des sociétés ignorantes et athées, El-Nadoui, 1987, je cite, « La civilisation occidentale ne reconnaît pas explicitement l'existence de Dieu, elle ne se réfère pas à lui dans sa pensée et dans son système intellectuel, elle ne lui reconnaît ni utilité, aucune utilité ni besoin. » Le matérialisme et le mercantilisme sont la, on a évoqué au début, sont la religion des Occidentaux et non le christianisme qui se résume aux apparences seulement. Cet état d'ignorance et le matérialisme conduisent à l'enfer, au bouleversement, à l'anarchie sociale, à la décadence morale, à la crise économique et à la faillite spirituelle, Saïd Cobb, 1993. La civilisation occidentale s'effondre et se décomposerait donc sous le poids du matérialisme. Selon cette vision, Jahiliyat al-Halam, l'état d'ignorance de l'islam par le monde, est le fait de renier la gouvernance d'Allah, de ne pas pratiquer la loi islamique, la charia, et de ne pas croire qu'il y a, il n'y a de Dieu qu'Allah. Le djihad suivant, selon la pensée fondamentaliste extrémiste, telle que la lit Mme Melgacem Lamoudi, il convient d'éradiquer cet état d'ignorance de l'islam dans le monde par le djihad, de bâtir une société nouvelle et saine, l'état islamique, en réinstaurant l'état de califat, Saïd Cobb, 1993. Cette confrontation première conduira inévitablement au djihad, dont l'objectif est d'instaurer la gouvernance d'Allah sur terre. L'islam ne cherche pas à convertir les non-musulmans, mais vise à annihiler l'adoration et la dévotion des despotes, des tyrans. Le djihad n'est pas un moyen d'agression ou un moyen pour des visées expansionnistes, contrairement aux apparences, mais un moyen pour concrétiser et pour garantir la paix. Contrairement aux apparences également. Dès lors, le djihad requiert une préparation à la fois spirituelle, industrielle et militaire et doit être précédé par une révolution intellectuelle et morale. Le djihad serait le moyen par lequel la révolution universelle arrivera. Révolution sur laquelle insiste beaucoup Scott Atran dans sa lecture de l'État islamique. L'État islamique est une révolution. Le plan d'action du djihad tel que... c'est pas grave. Ça, oui, si vous voulez. Le plan d'action du djihad suppose une défense matérielle et morale, première mission de la révolution universelle, d'anéantir tout obstacle qui peut se dresser sur la route de la Darwa Islamia, l'appel islamique, deuxième mission, est d'instaurer la gouvernance d'Allah et combattre les agresseurs qui ont violé cette gouvernance. La paix, enfin, est de ce quatrième élément. La révolution universelle conduit inévitablement à l'instauration de la justice. Cette justice commence par la relation de l'individu avec son créateur, paix de la conscience avec sa personne, paix dans le foyer, avec la société, paix avec la société, avec son État. Le devoir de la société est de promouvoir la vie humaine et de la guider à trouver Dieu, ce qui engendrera la paix globale, El-Nadoui, 1987. Je vais passer donc à l'examen de deux vidéos afin de montrer cette présence d'une discursivité, d'une iconicité religieuse dans la communication numérique de Daesh avec deux vidéos. La première qui montre, je ne vais pas montrer la vidéo, mais quelques captures d'écran, l'exécution du pilote jordanien Mourad el-Kassasbah, intitulée Shifa al-Sodour, la guérison des cœurs, et celle de l'exécution de 21 coptes égyptiens, intitulée Message Signed with Blood to the Nation of the Cross, message signé avec le sang pour la nation des croisés. Alors le choix de ces vidéos n'est pas fortuit ni hasardeux. Ce sont deux exemples, semble-t-il, édifiants de la propagande de Daesh, qui sont notamment, qui jouent dans leur structure de l'opposition binaire entre croyants et djihadistes et renégats et croisés. Elles sont intéressantes aussi dans la mesure où elles enseignent deux types de messages et de discours différents. Le premier est destiné à l'ennemi proche, les apostats, ce sont les gouvernements, c'était évoqué tout à l'heure, et les États arabes et musulmans, mais qui ont prêté allégeance à l'Occident, les alliés des États-Unis et des pays de la coalition formés pour combattre l'organisation de l'État islamique, et la deuxième est destinée à l'ennemi éloigné, les croisés. Alors, dans cette première vidéo, on a la guérison des cœurs. Il y a quand même presque une ironie du titre, mais bon. Pour nous du moins, une opposition entre le « nous » de l'État islamique et le « vous » représentant l'alliance diabolique. Alors, le titre la guérison des cœurs trouve sa signification au niveau donc thématique. C'est une expression imagée de la vengeance. Cette expression est tirée du Coran, Wa yashfi sodora elmo aminin. Ce verset coranique sous-entend qu'Allah venge les fidèles et que la justice divine triomphera. Par cette exécution, Daesh se présente comme le bras d'Allah sur terre, si on peut se permettre cette expression. C'est aussi une façon de donner une légitimité à son acte en faisant allusion au fait qu'il s'agit là d'une volonté divine, bien évidemment. Le titre fait une référence à l'enfer, ce qu'on retrouvera dans la deuxième vidéo. C'est le châtiment qu'Allah réserve aux croisés et aux renégats et les mécréants le jour du jugement dernier. Je cite la sourate El-Haza, verset 64-65. « Certes, Allah a maudit les mécréants et a préparé pour eux un feu ardent dans lequel ils restent éternellement. Ils ne trouveront ni alliés ni secoureurs. » De ce point de vue, le titre est le premier élément de la structure du message à mettre en relief. Toujours cette opposition musulman croisée. Dans la première séquence, le roi de Jordanie, Abdullah II, accorde une interview à une chaîne de télévision américaine. Cette image est accompagnée par la légende, le tyran, Taghut, de la Jordanie, Abdullah II. Selon la jurisprudence islamique, telle qu'interprétée par le mouvement djihadiste, le tyran est le gouverneur qui n'applique pas la charia, la loi islamique. Le ton est donné, suivent des scènes de bombardements aériens contre des positions de l'organisation de l'État islamique sur le sol syrien, des bombardements qui sèment désordre et chaos. Les images de ce montage vidéo représentent des enfants, des femmes et des hommes morts, brûlés par les missiles de la coalition sur un fond sonore commentant de manière synchronisée ces scènes de destruction. Des commentaires qui qualifient les pays arabes en général et la Jordanie en particulier, les membres de la coalition internationale, de collaborateurs et renégats, et qui à chaque fois que l'occasion se présente prêtent allégeance et fidélité à l'agresseur, les États-Unis. Une façon de dire, nous avons réservé à ce pilote le même sort qu'il a réservé à nos enfants. Opposition entre le nous et le vous. Utiliser le terme croisé musulman a une connotation évidemment religieuse, renvoie au Moyen-Âge et au temps des guerres de croisade. Conflit existentiel et éternel, conflit entre les croisés vindicatifs, citation, et l'État de califat qui œuvre pour reconquérir Rome, vidéo de l'exécution des 21 coptes égyptiens qu'on va évoquer dans un instant. Ce n'est qu'à la fin de cette première séquence que le titre de cette vidéo est projeté sur l'écran, Healing the Believer's Chest. Pour cette vidéo, le titre en langue anglaise, je passe sur ça. Deuxième séquence de cette vidéo, l'annonce de l'arrestation du pilote jordanien, Mourad El-Kassasba, par plusieurs médias. Deuxième état du discours qui propose une autre réalité, un autre système de représentation, celui de l'organisation de l'État islamique. Donc on a un état au départ de permanence, ici un état de changement. C'est le détenu qui a la parole, à travers lui toute la coalition internationale est représentée. Il reconnaît sincèrement, j'imagine, que son gouvernement est un gouvernement collaborateur à la solde des juifs et que l'objectif de ses opérations militaires n'est pas la protection de l'islam et des musulmans. Il adresse aussi un message aux parents des pilotes jordaniens qui sonne comme un avertissement, empêcher leurs enfants de participer aux frappes aériennes. Séquence 3, au milieu des décombres et des abris des débris causés par les frappes aériennes de la coalition internationale à laquelle il a pris part. Le pilote détenu, habillé en tenue orange, on l'a vu précédemment, rappelle les prisonniers de Guantanamo d'un pas lent et il avance, résigné vers son destin. Cette scène est entrecoupée par des images flash de bombardements et d'enfants carbonisés, 2 à 4 secondes pour chacune. Une technique qui donne l'illusion que le détenu est en train de partager ses souvenirs avec le récepteur. La connotation de cette scène est, voilà pourquoi Daesh, on l'a vu, va exécuter ce pilote croisé. Il accepte ensuite la sentence. Voilà pour la marche. À l'intérieur de sa cage, il accepte. Il est en posture, évidemment, de victime, tête baissée. Il attend la punition. La mise en scène de cette exécution est parfaitement orchestrée. Les dernières scènes de cette vidéo sont d'une atrocité évidemment insoutenable. Et c'est une traduction intégrale de l'idéologie de Daesh appelée l'administration de la sauvagerie. À la fin de cette vidéo, cette organisation terroriste justifie son acte, mais cette fois-ci en reprenant un des pionniers de la pensée fondamentaliste du XIe siècle, Ibn Taymiyyah, qui estime qu'il s'agit là de justice et du djihad légitime. La deuxième vidéo, Message Sing with Blood to the Nation of the Cross, message signé avec du sang pour la nation de la croix, est une vidéo qui met en scène l'exécution de 21 coptes égyptiens sur la côte libyenne. Le début de la vidéo est à peu près regardable. Fondée là aussi sur une relation positive, le message central de cette vidéo est que l'État islamique, le califat, ne peut être instauré que par la force de l'épée. Le signifiant, l'épée, et le signifié, qui dans ce cas est le djihad, la violence, forment une relation thématique qui se caractérise par un aspect conceptuel. Selon Madame Lamoudil, l'épée a ici un sens pour Daesh littéral et non pas symbolique. Dans cette vidéo, il n'y a aucune équivoque à ce sujet. Il est indiqué que louange à Allah et que la paix soit sur celui qui a été envoyé, allusion faite au prophète Mohammed, pour instaurer la paix et la miséricorde dans les deux mondes par l'épée. C'est par ce type d'expression imagée, tirée du Coran ou de la Sunna, que Daesh légitime ses actes terroristes et le djihad. C'est une interprétation iconoclaste qui rejette toute image rhétorique dans le Coran. Pour les iconoclastes, l'utilisation du terme épée n'a rien d'une image. Et on sait qu'elle est utilisée dans ces vidéos et dans d'autres, sur des coups notamment. C'est le signifiant, soit l'expression de l'épée, et non son signifié, qui est en considération. Une forme de littéralisme que mon ami l'historien de la psychiatrie, David Allen, qui utilise le Catch-22, voit dans certaines formes de psychose, par exemple. Mais bon, là, on est hors sujet pour cette journée. Cette analogie abusive entre, je cite, la clémence du messager d'Allah et l'épée est prise hors contexte coranique. Le verset 256 de la sourate El-Baqarah, la vache, énonce sans ambiguïté, pas de contrainte dans la religion. La pensée fondamentaliste extrémiste, djihadiste et salafiste, les iconoclastes, estiment qu'il n'y a aucune distance entre le texte coranique, le signifiant, et la signification du texte coranique, le signifié. Il refuse toute interprétation, toute rhétorique et toute métaphore. Le texte coranique doit être appliqué à la lettre dans cette mise en scène. Séquence 1, donc, rapidement, d'emblée, l'opposition est concrétisée dans le discours non verbal, vue panoramique de la scène. Les 21 éléments de Daesh et les 21 coptes égyptiens avancent 2 à 2, avec l'inscription « The coast of Wilayat Tarabouls by the Mediterranean », la côte de la Wilaya de Tarabouls sur la Méditerranée. Dans cette indication du lieu de l'exécution, l'organisation de l'État islamique donne une référence idéologique, celle de l'instauration du califat. Il emploie une terminologie propre à cette époque. Du temps du système de califat, l'empire était composé de wilayat et la tête de chacune d'elles, un wali, gouverneur. La notion de pays n'existait pas. De même, l'appellation latine de wilayat est Tripoli. Et ici, c'est Tarabouls, le nom arabe qui est donné pour la capitale libyenne. Le choix du lieu n'est pas sans signification pour l'émetteur. C'est un message fort pour les croisés. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud de Rome, sur la terre d'Islam, la Libye. La connotation est « nous allons reconquérir Rome », c'est la promesse de notre prophète Mohammed. Dans cette vidéo, le plan large est favorisé pour mettre l'accent plus sur le décor que sur l'élément humain. Les djihadistes sont de carrure imposante face aux 21 victimes. On ne retrouve pas ici ce qu'on a dans d'autres vidéos qui étaient soulignées tout à l'heure, qui étaient l'érotisation du djihadiste dans le désert, qu'on voit dans la vidéo d'après les attentats de Paris notamment, puisqu'ici ils ne sont pas, enfin ça n'empêche pas, mais ils ne sont pas, enfin aussi oh, peut-être érotisation, mais sur d'autres modes en tout cas de signification érotique. Ils sont de carrure imposante face aux victimes, connotation de force et de grandeur renforcée par l'angle de prise de vue en contre-plongée, alors que les coptes sont filmés de façon plongeante pour les écraser. Le message signé avec du sang est représenté à la fin de cette vidéo par un mouvement de caméra qui suit, c'est assez joli d'ailleurs, qui suit les vagues devenues rouges par le sang des 21 victimes. C'est le sort que nous réservons aux croisés pour venger Oussama Ben Laden, dont le corps a été jeté dans la mer. La langue dans le discours de l'organisation islamique est une des principales composantes qui délimite la vision référentielle de la pensée fondamentaliste extrémiste. Opposition, donc là encore, entre le « vous » et le « nous », le « vous » source de mal et d'agression, le « nous » source de bien et de protection. Vous avez commencé à nous combattre, alors goûtez à notre vengeance. Madame Lamoudi s'appuie ici sur une réflexion de Babacker en 2014 qui estime que la langue devient un rite et une pratique. Rite parce qu'elle définit l'identité, l'épée est le symbole de l'identité djihadiste, instaurer l'État islamique par l'épée, soit le djihad, et pratique car le rite se verse dans la vie des membres de cette organisation chargée d'instaurer l'État de califat. Donc ces images sont choisies de manière à constituer un récit visuel, à produire un sens, à construire des valeurs qui définissent la vision des référents idéologiques de Daesh. Dans son conflit avec ses adversaires, à l'image de ce djihadiste poignard à la main, l'épée symbole de l'identité et du djihad, symbole réel, donc pas seulement symbole, qui s'adresse aux croisés, aux renégats, annonçant que Daesh va reconquérir Rome. La symbolique de ce récit visuel est l'anéantissement de l'autre, le vous, et la présence et la pérennité du nous. Ces opérations d'exécution relèvent une importance primordiale pour l'organisation de l'État islamique, car elles symbolisent cette confrontation et ce conflit existentiel. La communication de Daesh, c'est aussi Dabiq, qui était évoqué tout à l'heure, qu'il faut effectivement absolument lire, pour plein de raisons. On en reparlera. La communication numérique de Daesh contribue à la construction d'un nouveau système de représentation de la réalité qui est pensé pour conduire à la concrétisation de la révolution universelle, dimension relevée par Scott Atran, et permettre, suivant la sémiotique de Joseph Combes sur laquelle s'appuie Madame Lamoudi, j'ai écarté un petit peu ces éléments par manque de temps ici, de passer de l'état de permanence représenté par la dominance du matérialisme à l'état de changement représenté par la gouvernance d'Allah et l'application de la loi islamique, la charia, soit l'instauration du califat islamique. Dans ce contexte, ce mouvement djihadiste prône l'application de l'administration de la sauvagerie. L'administration de la sauvagerie, citation, est la prochaine étape par laquelle va passer la nation. C'est la plus dangereuse des étapes. Si nous réussissons à administrer cette sauvagerie, cette étape sera cela qui conduira à l'État islamique attendu depuis la chute du califat. Abi Bakr Naji, 2007. La sauvagerie est l'état dans lequel se sont retrouvés les pays musulmans et arabes après les accords de Sykes-Picot en 1916, prévoyant le partage du Proche-Orient à la fin de la Grande Guerre. Abi Bakr Naji, un des théoriciens du mouvement djihadiste et d'Al-Qaïda, a défini la zone de la sauvagerie de la façon suivante, citation, « C'est une zone soumise à la loi de la jungle dans sa dimension primitive, c'est une occasion pour les organisations djihadistes. » Abi Bakr Naji, 2007. C'est précisément cette stratégie que suit Daesh pour instaurer l'état de califat, par l'épée et par la sauvagerie, car Daesh est une organisation iconoclaste qui produit des images en même temps. C'est le paradoxe qu'il faudrait creuser, ce que nous n'avons pas fait encore ici. L'analyse de deux vidéos peut nous révéler que l'organisation de l'État islamique, dans sa vision iconoclaste, rejette l'autre. Cet autre perçu comme source de mal, de désordre et de déséquilibre. Dans sa vision iconoclaste, cette organisation djihadiste crée le dogme des idoles et se représente comme l'État qui va rétablir l'ordre pour atteindre le monde de la paix. Que ce soit à travers la langue, le texte ou l'image, le discours de propagande de Daesh est construit sur l'anéantissement de l'autre comme éternité du soi. C'est un conflit en quelque sorte existentiel qui se joue ici à travers des discours et des images en une expression religieuse.